le manifeste au quotidien par sa grande patience, sa bonté et par son pardon. Et donc c'est le thème que nous abordons là depuis quelques réunions. Nous avons vu la première fois que nous avons parlé du pardon, on l'avait exprimé avec le premier élément qui vient au moment de l'enfance, parce que si on parle de pardon, c'est qu'il y a un moment, il y a conflit, il y a eu une provocation, il y a eu quelqu'un qui a suscité la douleur et quelqu'un qui a subi la douleur. Et on avait évoqué le premier aspect du pardon avec la colère. Et puis après, on a vu aussi la notion du pardon qui libère, le pardon qui justifie. Mais on va voir. Et on avait dit que lorsqu'on est blessé, l'expression de cette colère, comprenez que derrière le mot colère, ce qui était là, on a eu l'occasion de définir, mais c'est le ressenti. L'expression du ressenti est très important, très important. Alors on a vu les différentes raisons hein, pour éviter de... À la fois pour soi-même, ça évite de laisser en fait une sorte de poison au-dedans de nous. On a besoin d'exprimer les choses. Donc on voit qu'au travers de l'expression de la colère, de le maître des mots, il faut qu'il y ait l'expression de celui qui est offensé. Et bien on va voir aujourd'hui, ce soir, que si l'offensé doit s'exprimer, doit non pas se décharger, on est d'accord, on n'est pas en train de dire que celui qui a subi l'offense doit commencer à sortir les couteaux, non, mais au moins mettre les mots, au travers de la colère, de l'expression de ses sentiments. On va voir ce soir que l'offensé doit aussi dire quelque chose. Si celui qui a été piétiné a le droit de dire « Ouh, ça me fait mal !» Celui qui a écrasé le pied doit demander pardon. Ça s'appelle la repentance. Ça, c'est une image basique. Mais de la même manière que il était salutaire et il est salutaire pour celui qui souffre, de pouvoir exprimer sa souffrance, de pouvoir dire « ce que tu m'as fait, ça me fait mal », de la même manière qu'il est salutaire pour celui qui souffre un moment de sa vie, de pouvoir exprimer sa souffrance, de pouvoir mettre des mots afin qu'il soit reconnu dans sa souffrance et qu'il ne soit pas méprisé. Et je dis bien salutaire parce que si on étouffe, si on retient cette colère, si à un moment dans notre vie on n'a pas la possibilité d'exprimer cette humiliation, cette cassure intérieure, alors on vit avec cette cassure. Alors que le fait de pouvoir l'exprimer, c'est libérateur, c'est salutaire. Il est également salutaire pour celui qui a commis l'offense de passer par la case repentance. C'est salutaire. Alors, j'invite déjà à prendre dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Et on va lire les versets 22 à 26. Et je me suis même amusé à partir du verset 22, même si c'est pas le sujet premier, mais ça va permettre de faire un petit rappel. Et donc ce soir, on va développer la notion du pardon et de la repentance. Matthieu chapitre 5, verset 22, Jésus dit: on peut mettre verset 21, pardonnez-moi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère. Ah ben oui, mais c'est pas ça, ça va pas ça. On va revenir dessus. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dit à son frère, raca, cervelle de moineau, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. On comprend ce qu'on est en train de lire là? Quand je vous parlais tout à l'heure d'un point de vue salutaire, C'est exactement de quoi le sujet, hein. Verset 23. Si donc, le si, c'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire que c'est une suite. On n'est pas là dans une autre histoire, autant où je tombe. Non, si donc. Voilà, on est dans une situation de colère, de conflit. Oh, et si donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Allez, pour nous, c'est en contextuel, si tu vas à l'église. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire que tu sais que là, le frère ou la sœur, il y a un bis-bis là entre vous deux. Tu le sais. Ça te revient à l'esprit. Oh, mais au fait là, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Comprenez le parallèle que Jésus faisait avant. En prison, en gêne, enfin c'est la même chose, hein, c'est les mêmes images. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas que tu n'aies payé le dernier cadran, c'est-à-dire le dernier centime. Quand il nous est parlé de la colère, là, il n'est pas parlé de l'émotion, du ressenti que l'on peut ressentir et que je disais qui est nécessaire. D'ailleurs, en grec, il y a différents mots pour parler du mot colère. Et là, c'est vraiment le mot colère, celui qui... la fureur, quoi. Ok ? Là, c'est la colère, vous vous rappelez, du fils aîné qui s'est mis en colère lorsqu'il a appris que son frère était revenu et voilà, il était là, il était en fureur. Voilà, là on est dans le contexte de celui qui se laisse emporter par ses émotions et qui transforme cette émotion de blessure en agressivité. Donc là on est dans ce cadre là c'est pour ça qu'il est très sévère. Et donc Dieu nous dit, si nous revenons sur notre notion du pardon et de la repentance. Alors, bien sûr, c'est intéressant pour ceux qui étaient là, les réunions d'avant, parce que la réunion d'avant, on avait montré les raisons pour lesquelles Dieu est très exigeant sur la notion du pardon, surtout vis-à-vis de ses enfants. Mais on ne va pas revenir dessus. Mais on comprend qu'il y a vraiment une exigence. Dieu est sévère, là. Enfin, on comprend qu'il ne blague pas. Il n'est pas en train de dire, si tu pardonnes pas, si tu as un problème avec ton frère, bon, bah c'est pas grave, va à l'église, fais ta belle prière, et puis après, si tu as l'occasion, si tu n'es pas trop fatigué, si c'est la bonne heure, éventuellement tu pourras l'appeler, mais bon, tu peux attendre ça le mois prochain. Non ! Si tu te rappelles là, si tu sais que tu as quelque chose à quelqu'un, ou que cette personne elle a un différend avec toi, et qu'il y a quelque chose qui cloche entre vous, stop ! Va pas la peine de venir faire ta belle prière, va d'abord te réconcilier. Va d'abord régler cette histoire. Et on comprend bien qu'il y a là la volonté de Dieu que les personnes se parlent. D'où cette expression, la manière de parler, de s'exprimer, de mettre les choses, comme on dit, table sur carte. Et ne point laisser les choses sous silence. Parce qu'il nous arrive, et je crois qu'ils aient au moins tous arrivé ça, au moins une fois, dire « Oh, bah, c'est pas grave, ça passera. » Ou de se dire « Oh, c'est peut-être pas si grave. » Et tant de situations que pourtant, Dieu nous dit « Tu ne sortiras pas de cette histoire, de ces situations, avant que tu n'aies payé le dernier centime. » Le dernier centime. S'il y a une démarche, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'offenseur, celui qui a blessé, ne fait pas une démarche de reconnaissance de son acte, avec une demande de pardon, l'histoire n'est pas réglée. Tant que celui qui a blessé ne demande pas pardon, l'histoire n'est pas réglée. Je vais prendre une image. Imaginez que quelqu'un fabrique une bombe. Il la concocte, tac tac tac, il l'allume. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Hop! Il la donne au voisin. Le voisin, il, a, il récupère ça dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il panique, il est offensé, il crie. Oh, je fais quoi? S'il connaît le Seigneur, il va la donner au Seigneur. Vous comprenez l'image là? Il y a quelqu'un qui a fait la bombe, qui a créé l'empoisonnement. Il volontairement, il la balance à quelqu'un. Cette personne la reçoit. Il dit, mais je fais quoi avec ça? C'est la panique à bord. Et il s'en décharge. La meilleure manière, c'est de s'en décharger auprès du Seigneur. On comprend la situation? Dites-moi, est-ce que l'explosif a disparu? Est-ce que l'explosion a disparu? Est-ce que le problème a disparu? Non. On n'a toujours pas réglé le problème. L'offensé, enfin l'offenseur depuis le début, il s'en fiche. Il a créé sa dynamite qu'il a balancée et il espère bien que ça explose tôt ou tard. Celui qui a reçu le paquet, il a eu l'intelligence et l'avertissement et le conseil de décharger ça auprès du Seigneur. Donc il l'a fait. Mais n'empêche que il a été traumatisé, choqué. Et heureusement, il y a un sauveur qui est capable, lui, de tempérer les situations. Mais n'empêche que la dynamite, actuellement, elle est dans les mains du sauveur, du Seigneur. Et d'où cette expression qui nous est dit au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, de peur qu'il ne te livre au juge et que celui-ci ne te livre à l'officier et que tu ne sois mis en prison. Parce que la personne qui a jeté à l'initiative la dynamite, quand il sera devant le juge et le Seigneur, il va retrouver sa dynamite. Vous comprenez qu'il y a une différence entre le fait d'un pardon superficiel, d'un pardon qui nous sauve, d'un pardon qui nous sécurise, d'un lâcher prise. Seigneur, cette dynamite, moi j'en veux pas, cette haine, cette difficulté, je te la confie, Seigneur. Mais la situation n'est pas réglée. Le dossier n'est pas clos. Le verdict n'est pas fini. La réconciliation n'a pas été faite. Et la dynamite, celui qui l'a balancée depuis le début, il la retrouvera. Et là, ce n'est plus seulement avec l'adversaire qui va devoir trouver un terrain de conciliation et de pardon et d'humiliation. Mais c'est avec Dieu lui-même. Et ça, il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Tant qu'il n'y a pas l'expression du pardon, le dossier n'est pas fini. Tant qu'il n'y a pas l'expression de la repentance, le péché n'est pas effacé. Tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'offenseur à l'égard de l'offensé, en présentant ses excuses, alors le péché est toujours là, la dynamite est toujours là, la blessure est toujours là, la faute est toujours là. Accorde-toi promptement. Accorde-toi promptement avec ton adversaire de peur que ce ne soit avec le juge. La réalité, elle est bien là. C'est que tout ce que nous ne réglons pas entre les hommes, nous le réglerons avec Dieu. Tout ce que nous ne réglons pas entre les hommes, nous le réglerons avec Dieu. Si un jour j'ai volé quelque chose à quelqu'un, si je ne lui ai pas rendu, cette dette-là existe toujours devant Dieu. Et c'est à lui que je devrais rendre compte. Je vous rappelle que la chose existe aussi dans le sens inverse, parce que la Bible nous parle des récompenses. Tout ce que nous aurons perdu à cause du royaume des cieux sur cette terre, Jésus nous dit qu'il nous le rendra. Et ça, on oublie souvent cette réalité. C'est que toutes les choses que nous ne réglons pas sur cette terre, nous le réglerons au ciel. Et tout ce que nous perdons à cause du royaume des cieux sur cette terre, le Seigneur nous donnera une compensation, une récompense. Je te le dis, Tu ne sortiras pas avant que tu n'aies payé le dernier centime. Dieu nous demande de régler tous nos dossiers purs. Alors c'est vrai qu'il y a des situations, surtout si nous sommes l'offenseur, où nous minimisons l'offense. Nous ne sommes pas toujours conscients de la blessure qu'on peut avoir fait au travers d'une phrase, d'une manière, d'une attitude, d'un regard. Il y a des fois où nous ne sommes même pas du tout conscients qu'on a blessé quelqu'un. Et là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mes bien-aimés, qu'on ne commence pas à se dire « Mais mince, On verra tout à l'heure s'il y a un doute, ce qu'il faut faire. Mais il y a quand même des situations où on peut être conscient, où on sait. Et Jésus est en train de nous parler de ces situations-là. Parce qu'il y a des fois, on se dit « Non, pas la peine que j'aille m'excuser auprès de la personne. Bon, c'est rien, ça va passer. » Mais parce que peut-être que nous sommes capables de supporter une telle dimension ou peut-être que ce qui nous paraît, minime, ne l'est pas pour l'autre. D'où l'importance, si l'on sait. D'ailleurs, c'est amusant l'histoire, parce Jésus est en train de nous parler d'une histoire que, voilà, on va à l'église et puis là, on se souvient. Ça revient à l'esprit, c'est pas quelque chose qui nous persécute. Il nous arrive tantôt d'avoir des situations où vraiment on en a l'eau sur la patate, quoi, hein. Où ça. On va au travail et puis on y pense, on essaye d'oublier et puis ça revient. Là c'est vraiment le truc bien lourd. Il faut vraiment, si on fait pas, on est mal. Mais là il est en train de nous parler et là tu te souviens. Mais vous voyez où vous faites là? Ça revient comme ça. Est-ce que cette histoire. Est-ce que le frère, est-ce que la sœur, elle a pas mal vécu ce moment-là, au fait? Est-ce que j'ai pas été maladroit? Est-ce que... C'est passé tellement vite, mais quand ça me revient à l'esprit, quand la scène me revient à l'esprit, est-ce que j'ai pas manqué de délicatesse, de... Mince. Je lui passe un coup de fil. Que le Seigneur nous apprenne à avoir cette sensibilité. D'ailleurs, je vais aller un peu plus loin. Pour nous, chrétiens, ce sera très formateur. Parce que si nous nous habituons à passer outre, « Oh, c'est rien, oh, c'est bon, hein, c'est la vie, hein. » Nous nous endurcissons le cœur. Parce que nous nous habituons à ce que les autres ont à supporter nos réactions, nos états d'humeur, notre manière de faire. Alors que la Bible nous invite à être complètement autre. C'est à nous d'être des hommes accueillants, aimables. La sagesse selon Dieu, qui est pacifique, modérée, conciliante, pleine de douceur, que votre douceur soit connue de tous. Et là, on comprend que dans le pardon, dans le principe du pardon, nous devons vraiment développer cela et nous en gagnerons même dans notre maturité, dans notre caractère personnel. Cette histoire de pardon et de repentance. Mais c'est le principe de Dieu. Il n'y a point de salut sans repentance. Il n'y a point de pardon des péchés sans repentance. Certaines personnes dans le monde qui comprennent mal ou qui ne cherchent qu'à comprendre qu'un aspect de l'évangile vont dire « Oh mais Dieu est mort pour les péchés !» N'est-ce pas? On a déjà entendu ce genre de réaction. « Oh mais Dieu est mort pour les péchés !» Hein? Jésus, c'est le sauveur. Hein? Sous-entendu, bah, de toute façon, je pêche, je vis dans le péché, et puis de toute façon, comme Jésus est mort pour les péchés, bah, il est mort pour mes péchés, quoi. Donc, il a payé pour mes péchés. Que je pêche ou que je pêche pas, de toute façon, la note, elle est payée, quoi. Alors, t'es le sauveur du monde. Et non, on sait que non. Jésus a payé la dette, bien sûr, de tous les péchés, de chaque être humain. Et il n'y a aucun péché qui ne soit pas pardonné, qui ne soit pas prêt à être pardonné. Mais Dieu pardonne les péchés qui sont confessés. Repentez-vous et vous serez pardonné. Repentez-vous et vous serez sauvé. Repentez-vous et vous recevrez le pardon. Repentez-vous. C'est le message de l'évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance précède la foi. Mais pas l'inverse. Certains, eux, ils veulent croire que Dieu sauve et puis en fait, on n'a plus besoin de la repentance. Mais non, c'est repentez-vous, ils croyaient à la repentance. On se repent d'abord et à partir de là, alors on croit qu'effectivement Christ est mort et qu'il a effacé les péchés. Mais ce n'est pas la foi qui précède la repentance, c'est faux ça. On commence déjà à prendre conscience qu'on a offensé Dieu, qu'on a blessé le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu saigne à cause de nous. Et quand il y a l'action du Saint-Esprit dans ces moments-là, alors ce qu'on pouvait minimiser avant devient comme quelque chose de crucial et de vif au plus profond de notre cœur. Je me souviens de... Ça m'est arrivé une seule fois. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé d'autres fois, mais c'était à mon insu. Je me rappelle d'une prédication et j'avais vraiment à cœur de demander aux gens, quand ils venaient s'approcher, de savoir pourquoi ils voulaient comprendre. Alors les uns demandaient pour cela, les autres demandaient pour cela. Et puis l'un qui me dit, il se met devant là. Je commence à mettre mes mains sur lui et dit, tu veux comprendre pourquoi? Il dit, je sais pas moi ce que vous voulez. Ah, Pato, ça casse tout. Mais c'est pareil. Est-ce que tu veux être pardonné de tes péchés? Ouais, bah pourquoi pas quoi, ouais. Non, ça marche pas. Il faut une conviction. Il faut savoir quel dossier on veut régler avec Dieu, avec son prochain, avec sa famille, avec soi-même. Il faut qu'on soit conscient de... qu'on est en train de résoudre un problème, non pas seulement de catapulter la patate chaude à quelqu'un d'autre, mais on étouffe, on écrase cette patate chaude, on la jette, on s'en débarrasse, elle n'existe plus. Et celle-ci passe par la repentance, par la confession, par le fait d'exprimer les choses. Alors, si nous revenons à un cas pratique, qui doit faire la démarche? S'il doit y avoir effectivement confession, reconnaissance de l'erreur, qui doit faire quoi? C'est dans nos textes. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Va le voir. Si on sait qu'il y a un litige, que nous soyons l'offensé ou l'offenseur, il faut qu'il y ait une démarche qui soit faite. En l'occurrence, dans ce texte-là, on a plutôt l'impression que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc on peut penser que c'est l'autre qui a un pic dans son cœur, quoi, qui a été blessé. Et c'est vrai que, de manière assez pratique, quand l'offensé aura beaucoup plus de mal à aller vers celui qui l'a déjà offensé pour lui expliquer sa situation ou pour régler. Non, il faut que ce soit véritablement une prise de conscience de celui qui réalise un moment qu'effectivement j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai mal répondu. J'aurais pas dû intervenir, j'aurais pas dû réagir ainsi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience du pécheur, de l'offenseur, que ce soit volontaire ou involontaire. Il n'est pas question là de vouloir rajouter une peine sur un péché, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience personnelle. Alors oui, c'est à celui qui a blessé d'aller voir la personne. Mais retenez bien cette histoire quand même. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Pas la peine d'aller voir quelqu'un si cette personne n'a rien contre vous. Martine, ma bouc émissaire préférée. Si j'ai des mauvaises pensées sur Martine, vraiment des mauvaises, hein, vraiment devant Dieu, c'est... Je ne l'ai pas dit, mais tout ce qu'avant, là, toute la colère, je l'ai intérieurement. Et vraiment, quand je pense à elle, j'en transpire de colère. Mais elle ne le sait pas. Est-ce qu'elle va avoir quelque chose contre moi? Rien du tout. Elle va me dire, il est vraiment gentil, le pasteur. Elle ne sait pas tout ce que je peux
fomenté au-dedans de mon cœur. Mais elle, elle n'en sait rien. Elle n'a rien contre moi. Rien du tout. Donc ce n'est pas à moi. Enfin, je ne dois pas aller voir Martine. Oh, tu sais, Martine, hein, ça fait des semaines que je bagarre des mauvaises pensées à ton égard, si tu savais. Non, parce que elle maîtrise rien du tout. Elle est là. Je vais plus la choquer qu'autre chose. Je dois aller voir la personne si je sais que la personne peut avoir quelque chose. Si je l'ai blessé, si je suis conscient de l'avoir blessé. On peut avoir... Il y a un petit téléphone là. Ah, ça va s'éteindre. D'accord. Il peut avoir des situations de doute. C'est un peu perturbant quand même. Il peut y avoir des moments de doute. Je me souviens d'une situation. Vous savez que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, hein, vous connaissez le verset. Et il y a quelques mois, peut-être une année, je ne sais plus. Oh, ça m'a travaillé. Il y a une dame qui fait le ménage dans l'immeuble et bon, on discute agréablement, quoi. On entretient des relations plutôt amicales. Il y a plusieurs mois de ça, je fais une boutade et je vois que le visage reste un peu crispé. Et puis je fais une boutade parce que j'étais un peu pressé, je voulais pas prendre le temps de discuter, mais je voulais quand même pas passer comme ça sans rien dire. Alors je fais une petite boutade et donc ça se passe en quelques secondes, hein, comme ça peut arriver à plusieurs d'entre nous. Et je suis dans la voiture, je dis non, mais j'étais trop nul. Parce que ce que je disais, ça pouvait être pris à comme une sorte de remarque piquante ou de critique sur son travail. Oh, pendant toute la journée, je dis oh non, la pauvre dame, j'espère qu'elle a pas. Et puis deux jours, trois jours après, je la revois dans les couloirs et vraiment, je commence à lui présenter mes excuses. Et vraiment, je suis désolé parce que peut-être la dernière fois, la blague. Et puis non, pas du tout. Non, je n'ai même pas pensé. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais au moins. Il y a eu un doute qui a été évacué. S'il y a un doute, alors on peut. Mais si on sait consciemment que la personne, elle n'est absolument pas concernée par des situations que nous cultiverions dans notre cœur, alors pas la peine d'aller réveiller des doutes et des soupçons dans l'esprit des gens. Devons-nous pardonner à quelqu'un qui ne vient pas nous demander pardon? Parce que nous disons depuis tout à l'heure que tant qu'il n'y a pas la confession du mal, la reconnaissance du mal, alors le dossier n'est pas fini, n'est pas clos. Est-ce que nous, alors, nous devons apporter un pardon à cette personne qui ne ferait pas cette démarche de venir présenter ses excuses? Alors j'aurai une réponse de Normand, qui paraît-il... sont spécialistes à dire à la fois oui et à la fois non. Oui, nous devons pardonner, déjà pour nous-mêmes, parce que nous avons vu dans les étapes que le pardon est libérateur. Le pardon, c'est un processus afin de nous délivrer nous-mêmes d'un processus qui nous amène à l'amertume, à la colère, à laisser les sentiments, à la blessure se transformer en infection. Vous vous rappelez de cela ? Donc oui, je dois pardonner, au sens où je veux rentrer dans ce processus, je dis non, stop, j'ai été blessé, d'accord, mais je ne veux pas laisser ce sentiment m'envahir et me dominer. À tel point que, et on connaît tout ça, quand on laisse ces choses, ça nous prend la tête, ça finit par nous focaliser, on devient prisonnier. Donc oui, je veux pardonner afin de ne point devenir prisonnier d'une situation. Et ça, c'est un processus dans lequel nous devons entrer. Oui, dans ce sens, nous devons pardonner même à celui qui ne vient pas vers nous pour s'excuser. Oui, nous devons le faire afin d'être prêts à le faire le jour où cette personne viendra nous voir. Peut-être que c'est une question de jour, peut-être que c'est une question de mois, peut-être est-ce que ce sera une question d'année. Mais si nous ne commençons pas un processus de pardon, alors lorsque la personne arrivera, si nous n'avons pas commencé ce processus, nous n'accepterons pas. Nous resterons comme le fils aîné, froid, distant. Alors que si nous avons commencé à pardonner, au sens de ne pas en tenir rigueur. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils font comprendre cette dimension du pardon. Je ne veux pas en tenir rigueur, je ne veux pas devenir esclave de la situation. Et si tu viens, alors je ne veux pas te remettre ça sous les yeux. Si tu es capable de présenter tes excuses, alors oui, je veux être prêt à te pardonner. Alors dans ce sens, oui, pardonner au sens de ne pas tenir rigueur, oui, nous devons le faire. Pas de manière prolongée, évidemment. Mais pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable. Pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable. Et il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit capable de faire la différence entre ce pardon qui nous libère nous-mêmes d'une situation et le pardon qui cautionnerait celui qui a mal agi. Si je prends le... Alors j'ai relevé trois expressions qui vont nous permettre de comprendre. Tu sais, t'entends, il y a des gens qui disent « Mais je lui pardonne. » L'offenseur n'est pas venu demander pardon, mais la personne dit « Oh, mais je pardonne. » Mais tout n'est pas réglé. Alors que cette expression du je pardonne, c'est-à-dire que bon, bah, on ne va pas y revenir, c'est bon, l'affaire est close. Non, ce n'est pas clos. Ok que tu pardonnes afin de ne pas réveiller en toi des sentiments malsains. Tu as raison. Mais commence pas à dire je pardonne au sens où même si la personne ne fait rien, l'histoire, elle est réglée. Elle n'est pas réglée. Non seulement elle n'est pas réglée avec toi, parce qu'il faut reconnaître que tant que la personne n'est pas venue nous dire pardon, il y a quand même une petite blessure. Même si nous nous protégeons, nous savons que tant qu'il y a un différend avec quelqu'un et que la personne ne reconnaît pas son mal, il y a une blessure. Nous sommes humains et nous sommes même intelligents, parce que si la personne qui nous a fait mal hier n'est pas capable de le reconnaître, ça veut dire qu'après-demain, elle est capable encore de le faire. Donc, il faut qu'on soit conscient. Ok, je pardonne, mais l'histoire n'est pas réglée. C'est pas pour ça que je vais te la rappeler. C'est pas pour ça que je vais te poignarder. C'est pas pour ça que je vais être ton accusateur. Mais la situation n'est pas réglée. Je pardonne en mon cœur, mais la chose n'est pas pardonnée, n'est pas effacée. Elle n'est pas réglée. Et quelque part, si l'on commence à dire haut et fort, oui, il ne va pas pardonner, mais je le pardonne, nous devenons complices de son mal. Parce que la personne offensante, ça lui donne légitimité de recommencer et puis on lui pardonnerait encore. Et c'est là que l'on devient, par faiblesse, des pardonneurs de complicité. Enfin, qu'on accorde des pardons de complicité. Il y a rien, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, mais je le paraphrase, je crois que c'est dans Ésaïe. Oui, il est dit que si on ne reprend pas le méchant, il recommencera. Mais c'est le principe. Oui, je veux pardonner dans mon cœur. Mais sache que l'histoire n'est pas réglée. Et si je commence à dire à l'un ou à l'autre, ou même à la personne, « Mais je te pardonne, t'inquiète, c'est rien. » Alors on donne du crédit à cette personne de recommencer. Parce que c'est bon. De toute façon, si je ne demande pas d'excuses, toi, ça, tu me pardonneras. Donc je vais recommencer. Et on donne du crédit à ce genre de personne. Certains diraient, « Oui, mais je veux pardonner, mais je veux pas de problème. » Je pardonne parce que je veux pas de problème. La réalité, c'est que le problème perdure. Justement. Je veux pas de problème. Mais le problème existe. Rappelez-vous de l'histoire, de la dynamique qui est transbahutée. Celui qui a jeté la dynamique, il va la retrouver tôt ou tard. C'est avant qu'il faut la récupérer, qu'il faut l'enfouir, qu'on l'écrase, et là, elle n'existe plus. Mais tant qu'elle n'est que balancée, sans jamais d'expliquer, sans jamais demander pardon, sans jamais chercher à cette repentance qui purifie, qui efface, qui ôte le péché du monde, alors le problème subsiste. Et c'est une sorte d'aveuglement ou de faiblesse. que de dire je veux pas le problème. Mais le problème est, c'est tout. C'est la repentance. C'est la reconnaissance du mal qui ôtera le problème. D'autres, beaucoup plus sentimentaux, diront je l'aime, je lui pardonne, je l'aime. Je pense que c'est gentil. Mais la Bible nous dit que celui qui aime reprend. Celui qui aime reprend. Nos enfants, c'est parce que nous les aimons que nous les reprenons, parce que nous savons que s'ils gardent de mauvaises habitudes, plus tard, ce sera catastrophique. Oh, je pardonne, je l'aime, je n'ai pas de problème. Mais c'est faux. Ce n'est pas un acte d'amour que de pardonner et de participer à une sorte de complicité. Parce que dans le processus spirituel que nous avons développé dès le départ, si nous refusons d'accepter ce processus de repentance, ce n'est pas seulement avec nous qui va régler ça, mais ce sera avec Dieu. Et vaut mieux que cette personne que nous aimons ait des problèmes avec nous qu'avec Dieu. Il vaut mieux que ce soit à notre égard, parce que nous lui dirons « Non, excuse-moi, mais l'histoire n'est pas réglée. Je ne veux pas t'en tenir rigueur, mais dans cette histoire, la situation n'est pas réglée. Tant que tu me demanderas pardon, la situation n'est pas réglée. Oui, mais non, c'est toi qui vois. Il vaut mieux que tu me demandes pardon à moi et que l'histoire soit close et que le dossier soit rangé, plutôt que le fait que tu continues à t'entêter et que tu meurs et que tu te retrouves toujours avec ce dossier non réglé devant Dieu, qui sera ton juge et ton officier qui te mettra en prison. Donc l'amour n'exclut pas. Au contraire, l'amour cherche à régler les problèmes, cherche à amener les hommes et les femmes que nous aimons à la vraie repentance, à la vraie solution, à la vraie délivrance spirituelle. Alors oui, quelque part, demander à ceux que nous aimons de se repentir, de leur prendre conscience qu'ils doivent faire cette démarche de repentance, c'est les aider au salut. C'est pas une question de relationnel, là. C'est une vraie question de salut. En conclusion, le vrai et total pardon nécessite la repentance. Le vrai et le total pardon nécessite la repentance. Une démarche de reconnaissance qui blanchit, qui restaure les liens, qui reconnaît la souffrance de l'un et qui est aussi une prise de conscience du mal que l'on a causé. Et ne laissons pas accès au diable, ni dans notre cœur, ni dans le cœur de l'autre. Parce qu'en acceptant une sorte de pardon de complicité, on laisse le mal grandir dans le cœur de celui qui aurait cette habitude de blesser, mal agir, sans prendre cette habitude de se repentir, de demander pardon. Amen. Alors nous verrons une prochaine fois là, la dimension du pardon. C'était la question de Pierre. Hein? Parce qu'après avoir entendu tout ça, il y en a qui peuvent se dire « Mais combien de fois je vais pardonner alors ?» Eh oui, c'est la suite logique. La suite logique. Ok, alors il suffit que l'autre il vienne demander pardon. Oui, c'est vrai. Et là, l'histoire est réglée. Mais combien de fois? Alors nous verrons ça après. La dimension du pardon. Amen.